Les robots ne crient jamais. Une nouvelle de fiction de Francis Misio, parue dans le magazine PopLab de décembre 2012. Lue et mise en onde par Bernard Fostier. Chapitre 3.
Un luddite, lors de ses actions, ne peut porter atteinte à un être humain. 2. Un luddite doit obéir aux ordres donnés par sa hiérarchie, sauf si de tels ordres sont en contradiction avec la première loi. 3. Un luddite doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'est pas en contradiction avec les deux premières lois. Les trois lois luddites avaient été, et c'était si on y réfléchissait bien, un paradoxe absolu, directement inspiré de la première version des trois lois de la robotique d'Isaac Asimov. Elle s'étalait en haut de chaque page du manuel Edward Ludlam de sabotage et destruction ludite sur Freenet. Remix ciblé et adapté aux robots des célèbres Guerilla Kids de Morian Baba ou autre ouvrage de sabotage ou de destruction d'Emile Pouget à Derek Jensen qui pullait sur le réseau, traitant avec exhaustivité des méthodes à suivre depuis l'avènement de la société industrielle jusqu'à l'antique lutte contre les organismes génétiquement modifiés qui alimentent encore la nostalgie de certains anciens entre deux burgers moléculaires. Je quittais Freenet, lança le nettoyeur, scannais mon appartement en cas de présence d'une éponge à données Wi-Fi qui aurait été placée dans les environs, puis j'éteignis la tablette. Ça faisait bientôt 5 semaines que j'attendais le coup de fil. 5 semaines de labeur anonyme et routinier à trier les drames merdeux, mon job à la blanchisserie de l'Institut Aloïs de Montreuil, du prénom du découvreur de la maladie d'Alzheimer, là où mon doctorat sur le cinéma d'avant la 3D ne servait pas à grand-chose. Je me sentais prêt pour l'action depuis 2 semaines avec toutefois un réel trac. Quand allais-je être déclenché ? J'avais potassé les mille et une façons de griller un cerveau robotique avec une simple télécommande de l'eau bricolée, comment faire chuter les plus stables des humanoïdes pour ensuite leur fracasser les articulations, ou même faire s'autodétruire les droïdes de nettoyage en leur faisant avaler leurs organes externes. Les interminables débats sur Freenet concernant la condition des handicapés, pourtant relégués plus que jamais de notre société en proie au darwinisme social, sinon broyés, m'avaient laissé perplexe. Je n'en avais retenu qu'une phrase, choquante, dont j'espérais n'avoir jamais éprouvé la leçon. Dans l'action luddite, si vous êtes confronté à un humain défendant son robot à cause de ses conditions de vie, n'engagez jamais le dialogue. Faites au mieux, suivant vos ordres, et toujours en conformité avec les trois lois luddites. Le Big Phone vibra 3 jours à peine après la parution d'un article sur le net qui m'avait laissé justement penser que le déclenchement des actions allait être accéléré. Le gouvernement Fillon venait de lancer une énième guerre aux mobiles jetables en papier, tentant de les interdire au prétexte policier qu'ils étaient incontrôlables et angéliques, qu'ils étaient pollueurs comme jamais. J'étais heureusement dans la rue et non pas au travail lorsque je reçus l'appel. Le message fut laconique.
Tu as 24 heures pour t'occuper de la marchandise.
L'homme me précisa ensuite une adresse dans le 8e arrondissement. Je crus reconnaître la voix de Waddle. En tout cas, il y a une précision supplémentaire inattendue.
Elle t'a soigné. T'as dû la reluquer un peu trop à tous les coups, c'est classique.
À ces mots, la communication fut coupée. Je déchirai le mobile et le jetai dans un désintégrateur au coin de la rue, tout en me répétant maintes fois l'adresse communiquée afin de correctement la mémoriser. C'était parti. La dernière phrase m'avait troublé. Je pensais à la manière dont la lame avait accueilli mon air libidineux, seule interaction que j'avais eue avec elle. Sans doute était-ce à cet incident que Waddle faisait allusion. Sur quoi allais-je tomber ? Je ne pouvais qu'intervenir le lendemain soir pour éviter de quitter mon travail, au risque d'éveiller les soupçons. passais ma journée à la laverie sous le coup d'une puissante tension, me raccrochant à l'image de ma sœur. C'était pour elle que j'allais accomplir un nouveau crime robotique, puni d'au moins 2 ans d'incarcération. Mieux, que j'en accomplirais encore et encore et encore. Ce monde de merde, détruire des robots pour avoir le droit somme toute de torcher des vieux, ne méritait au fond que la fuite dans cette alternative était pathétique. Mais fuir où ? Je m'accrochais au seul espoir que le combat ludique éveillerait les consciences, bouleverserait la donne, que peut-être de nouvelles voies s'ouvriraient dont nul n'avait encore l'idée. Je me sentais comme ces gamins qui brûlaient les voitures. Les voitures de leurs parents, de leurs voisins, de leurs amis, jadis dans les banlieues d'avant les drones. Soit nuire aux intérêts de mon prochain. Après tout, ces robots étaient utiles aux gens. Ils leur avaient coûté de l'argent. Mais ces robots créaient tant de chômage aussi. Et toujours plus de misère, toujours plus d'exploitation. Par la faute des robots, ma sœur était morte. Par la faute des robots, un jour moi aussi sans doute je crèverai. On finira par en produire des styles à trier et des drassales à ma place. La façade de l'immeuble haussmannien était recouverte de ces plaques d'inox comme c'était la mode sécuritaire arty depuis quelques années. Je franchis la lourde porte de bois pour me cogner à la vitre blindée du hall. Je posais ma main droite, souillée par un drap de l'Institut, sur la plaque de détection de l'interphone à chaleur d'ADN. Le réseau se mit aussitôt à chercher qui j'étais. Probablement allait-il trouver, au hasard de celui qui avait dormi dans le linge, que j'étais né dans les années 60, estimant que j'avais 70 ans au moins, que je m'appelais Philippe, Nathalie, Isabelle, Eric, bref, identifier celui ou celle qui avait vagi dans le drap et qui demeure à côté de sa vie, comme un légume à l'Institut Aloïs. Heureusement, malgré la surabondance de fichiers, cette génération-là avait refusé qu'on les identifie en tant que légumes, et ma présence n'allait pas sembler anormale. Cela aurait été trop savoué qu'on n'avait toujours pas résolu le problème des plaques amyloïdes, ces dysfonctionnements remarqués dans les maladies neurovégétatives, que peut-être on n'allait même jamais connaître la solution. La porte de la loge s'ouvrit sur l'androïde concierge. L'appareil se dirigea vers moi, d'un pas toujours aussi étonnamment souple si on envisageait son poids. Il posa sa main sur la porte vitrée afin de faire passer son
« Bonsoir, monsieur Patrick Fourier, que puis-je pour vous ?»
Il portait sur son front de silicone, entre ses deux yeux, le tatouage universel cassé obligatoire, choisi en hommage unanime à Katel Capek. La similipo et l'addiction étaient depuis si longtemps parfaites que le législateur l'avait imposé dès les premiers crimes commis par de telles saletés dont on avait désactivé les fameux circuits les soumettant aux lois d'Asimov, afin de leur bloquer toute possibilité de nuire aux humains. J'ai rendez-vous chez Monsieur Prénom.
Un instant, je consulte son agenda.
C'est à cet instant que tout doit se jouer. Passez le Cerbère.
Je n'ai rien enregistré à votre nom.
Passez-le-moi. Le concierge débloqua la porte et par l'entrebâillement me tendit mobile accroché à son torse. Je le saisis. C'était plus simple les interphones dans les années 2000. Et je ne parle pas des concierges humains auparavant. Un truc auquel je m'étais jamais fait lorsque le mobile vous était prêté par un robot et il était froid au contact de votre oreille. Une voix cassée au bout.
Qui êtes-vous ?
Hello Alain, c'est Thierry.
L'emploi de prénom aussi antédiluvien me donnait presque envie de pouffer. Thierry ?
Thierry, tu sais bien, Thierry de l'université. Tu m'as dit de passer pour me montrer ton acquisition.
Je pris un regard gêné. Le robot restait immobile, mais je savais qu'il était en train de me scanner, mais j'étais serein. Je n'avais aucune masse métallique sur moi. Un long silence. L'autre devait mouliner là-haut avec son cerveau de momie.
Ok, montez, je lui envoie l'autorisation.
Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Il n'avait aucune idée de qui je pouvais bien être, mais avait omis toute prudence. J'avais vu un soir sur Lolo un documentaire qui expliquait comment les plus grands casses de banque avaient parfois été effectués, non pas au moyen de stratégies complexes, mais des simples combines stupides, dérisoires, résidant sur la confiance. L'erreur est humaine, pas robotique, et c'est tant mieux. La porte de l'appartement s'ouvrit sur un gnome quasi bionique. C'était un homme laid, affaibli et difforme en court peignoir soutenu par un exosquelette des pieds à la taille. Un abo comme tous ceux de cette génération qui ne passait même pas le 1m70. Son regard usé trahissait toutefois la surprise.
« Je ne vous connais pas. »«
Vous allez apprendre à le faire, » répondis-je, passant prestement la porte. « Essaie toujours de me rattraper avec tes jambes en kevlar. Même les androïdes sont plus lestes que toi. » Il refermait la porte, désappointé, et s'y adossa apeuré.
« Vous allez me faire mal. »«
Non. » »« Ne pas leur parler. Ne pas leur parler. » Je scrutais le long couloir de l'appartement. Personne. Ça puait la mort. Ça puait l'ennui, la fin de vie qui s'acharnait. Plancher, boiserie en vrai bois, des tableaux vivants du mouvement pictogénétique. Le gnome était friqué. J'aurais dû m'en douter à l'adresse de cet immeuble pourtant mal sécurisé. Mais là, c'était flagrant.
« Je peux appeler la police immédiatement !»
dit-il en me désignant son tatouage numérique au poignet. « Ne pas leur parler. » Je lui tournai le dos. J'avais 5 minutes devant moi. 5. Après, il me fallait gicler de l'immeuble. Je courus d'une pièce à l'autre. Remontant le couloir, dans mon dos, j'entendais les rouages de ses jambes qui chointaient. Salon, cuisine, rien. Retour sur mes pas. « Où est le robot? C'est lui qui m'intéresse. » L'homme plissa les yeux.
« Ce n'est pas un robot, c'est... »«
La chambre !» dis-je incrédule.
« C'est ma femme. »
Un éclair de panique, perçant la brume de l'âge, le trahit. Je fonçai vers le fond opposé du couloir. Un coude, 3 portes, salle de bain, toilette, une chambre, je passe la porte. Un lit immense, une pièce couverte de miroirs. Devant une coiffeuse, en nuisette, elle était là. Une housewife guetmoïde, dernier cri au look vintage brunette hyper sexy. Je fus aussitôt frappé par une similitude. J'avais devant moi Paula Prentice, une des héroïnes de l'antique film culte de Stepford Wives, de Brian Forbes. Ironie des designers, sans doute. La lame ne m'avait pas loupé, j'aurais dû le deviner. La géminoïde se retourna en me souriant. Son regard resta fixe. Son cassé était d'un rose délicat, situé en haut du sillon mammaire. J'imaginais l'hideux gnome caressant cet artefact.
Qui êtes-vous? Où est Monsieur Alain?
Dit-elle. Elle ne cria pas. Les robots crient jamais. Ils sont paramétrés pour ne jamais affoler les humains. Ils n'ont pas peur non plus. Ils analysent la situation. Je dégainai le couteau de cuisine en céramique accroché à ma ceinture. Me jetai sur elle, la saisissant par les cheveux, tirant sa tête en arrière afin de l'égorger. J'éprouvais nulle peur, nulle hésitation. Lorsqu'on a grandi avec ces êtres mécaniques autour de soi, on sait instinctivement faire la part du vivant et de l'inerte, aussi ressemblant soit-il. Je ne devais couper que les microscopiques câbles menant au moteur Mind. Ignorante de la situation, ou peut-être sexuellement programmée pour être soumise à n'importe quoi d'inavouable, elle ne réagissait plus. Elle était en attente. Un cri derrière moi.
« Laissez-la, je vous en supplie !»
Ne pas leur parler. Les aider, sauver l'humanité, mais pas leur parler. L'homme, debout dans l'encadrement de la porte, parut plus misérable que jamais dans son court peignoir informe d'où s'échappaient ses 2 jambes maigres et violacées de varices encagées par l'exosquelette. Un instant, je me sentis faillir.
« Je l'aime, je n'ai qu'elle, je vous en supplie !»
gémit-il. « Ferme tes yeux » criai-je. Me forçant à ne pas examiner les formes troublantes de la créature, j'enfonçai mon couteau dans la simili-peau, sous le menton et d'un geste brusque, tout en tirant sur la chevelure, fouillai de la lame qui déchira le voile interne de délicats fils en fibre optique, brisa les petites pièces inoxydables, dispersa les nanoprocesseurs. La tête se rabattit vers l'arrière, dégageant des tiges de nickel et des puces. Une odeur de feu électrique apparut, quoiqu'il n'y eut aucune étincelle ni rien de ce genre. Paul Apprentice, qui valait bien 3 ans de mon salaire d'ouvrier harassé, mourut sans même jamais avoir vécu. L'homme gisait sur le plancher, évanoui. Je vérifiai qu'il respirait encore, l'enjambait, et bondit hors de l'appartement, dévalant les escaliers 4 à 4. Au rez-de-chaussée, dans le hall, le Cerbère est devant la porte vitrée.
« Monsieur, je vais vous demander de bien vouloir cela. »
Il n'eut pas le temps de continuer. Je le fauchai d'un coup de pied pour le faire chuter. L'impact de ma cheville sur son squelette de métal, quoique couvert de 6 mini-peaux et de vêtements, me tira un cri de douleur.
tomba à la renverse, faisant se cristalliser la porte vitrée sous son poids. Je saisis une de ses mains et appuyai sur le bouton de commande incrusté dans son autre poignet. La porte de verre se débloqua. J'enfonçai mon couteau profondément dans un de ses yeux de silicone et le retirai prestement. Ses bras s'agitèrent de manière désordonnée. Il tentait de me retenir. Je m'écartai, puis sautai par-dessus. En quelques enjambées, j'avais franchi la porte cochère en bois et me tapai un sprint dans le hall, puis dans la rue, bousculant hommes, femmes et robots. Le hurlement d'une sirène approchait. 200 mètres plus loin, alors que je m'étais réfugié dans une impasse, crachant mes poumons, saleté de clope reconstituée, des papillons lumineux dansaient devant mes yeux. J'avais cru connaître mes dernières minutes. Je n'avais aucune condition physique. Je venais de décapiter la so sexy Paula Prentice. Je venais de gâcher les derniers jours d'un vieil homme peu gâté par la nature, sinon l'argent. J'étais couvert de griffures, de sang. Je restais prostré quelques minutes avant de réaliser qu'il me fallait fuir coûte que coûte. Des drones et des repulses devaient déjà sillonner le quartier. Un type d'une vingtaine d'années sortit de son immeuble tandis que je reprenais mes esprits. Un petit mec insignifiant, banal, look casual, en veste et en pantalon à pince. Me surprenant, accroupi et en sueur contre le mur, il me toisa, puis après un moment qui me parut interminable, sortit de sa main de sa poche de jeans et m'adressa le youth. Je lui rendis. Alors sans un mot, d'un signe de tête, il me proposa d'entrer chez lui. Son appartement était quasi vide. Mon hôte, toujours aussi mutique, ressortit après m'avoir proposé d'un geste de rester dormir sur un canapé défoncé. Avant de m'écrouler, épuisé, je fouillais dans les livres empilés à même le sol. Il y avait de ces antiquités en papier qui comptent. Du Rifkin, du Zerzan, du Riesel, du James and Prune, du Lack, le Taz d'Akimbe, le manifeste d'Una Bomber, Kaczynski et du Kirkpatrick Sale. Une bibliothèque en papier et érudite en ludisme. Un vrai coup de chance que de tomber sur ce type. On les voyait pas, mais les ludites devaient être bien plus nombreux chez les jeunes qu'ils ne pouvaient paraître. Je m'endormis comme une masse, mais serein. Je venais de réussir ma première mission. J'avais vengé Ève, ma sœur qui ne couchait certainement pas, en plus des tâches domestiques, elle.
C'était « Les robots ne crient jamais », une fiction de Francis Misio, lue et mise en onde par Bernard Cospier. Vous avez pu entendre dans cet épisode quelques musiques publiées sous licence Creative Commons. Il y a eu deux morceaux de Goondatch, Dungeon of Fire et Destero Boy, deux morceaux de 13, Space A4 et Supra Lounge, toujours les ambiances du collectif Drone Pit Drone avec Litanie des Ombres, et il y avait Madame B qui nous réservait Bad Soul Top Tip Derby World.